qu'on peut acclamer, bien acclamer pour la gloire de Dieu. Merci d'acclamer pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce que maintenant on peut acclamer pour Dieu? Celui qui nous a sauvés, celui qui a tout donné pour nous, celui qui est mort à la croix pour nous, celui qui nous aime d'un amour sans mesure, que toute la gloire lui revienne. Amen. Merci. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne d'être là ce matin et parce qu'il nous donne aussi cette grande responsabilité de partager sa parole. À lui soit toute la gloire. Merci à notre pasteur, le pasteur Joseph Bondo, qui nous a fait confiance et qui a bien voulu nous désigner pour cette tâche. Que le Seigneur le bénisse là où il se trouve. J'aimerais ce matin que nous puissions lire quelques versets. Vous savez, pour commencer, je dois dire que Papa Batoubenga a déjà donné les textes que sur lesquels je vais prêcher, 2 Rois 6 et 2 Rois 7. Et c'est magnifique pour deux personnes qui ne se sont rien dit. Donc, quand je l'ai entendu, ça a dit, waouh, vraiment, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Donc, je devais vraiment prêcher ce message-là. 2 Rois chapitre 6, je vais lire avec vous en kangourou, comme on dit, on va sauter, on sautera quelques versets, on lira à partir du verset 24 au verset 25. Au chapitre 6, nous lirons 24, 25 et 29, et puis nous lirons tout le chapitre 7. 2 Rois 6, versets 24 à 25 et verset 29. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 sicles d'argent et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 sicles d'argent. Verset 29. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Je vais au chapitre 7 de 2 Rois. Après avoir brossé ce tableau chaotique où des gens meurent de faim, encerclés par l'ennemi se tient à la porte. Ils savent plus sortir, ils savent plus entrer. Il n'y a plus rien qui se fait, l'économie est par terre. Ils sont tellement faim, ils souffrent, ils commencent à manger leurs enfants. Chapitre 7, je commence par le verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Amen. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens, s'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée des camps des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes. Le camp était tel qu'il était et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent, ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auquel ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés, des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et en voyant voir ce qui se passe, on prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sous les traces de l'armée des Syriens en disant, « Allez, voyez. » Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain et voici, toute la plaine était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sous la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, « On aura 2 mesures d'orge pour un sicle, 1 mesure de fleurs de farine pour un sicle, demain à 7 heures, à la porte de Samarie. » Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. » Et Élisée avait dit, « Tu verras de tes yeux et tu n'en mangeras point. » C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Amen. Une longue histoire, je sais, mais c'est important pour les quelques 3-4 grands points que nous allons développer en ce matin. Il s'agit ici d'une des histoires les plus tristes qui soit contée dans ce qu'on appelle le cycle d'Élisée, la période où Élisée est en train d'exercer le ministère. Un ministère glorieux, puissant. Il est celui qui fait suite au prophète Élie et Dieu l'utilise puissamment. Pour ceux qui aiment compter les miracles dans la Bible, Élie va accomplir 7 parmi les miracles d'Élie. On va en retenir 7. Et lorsque Élie meurt, lorsqu'Élie doit être enlevé, il va communiquer la double onction à Élisée qui va la lui demander. Et au départ d'Élie pour le ciel, Élisée reçoit donc thématiquement et mathématiquement la double portion d'Élie. Il va donc accomplir 14 miracles, que dis-je, 13, parce que le 14e, il va le faire à titre posthume. Un jour, on vient enterrer un homme qui était mort, et pendant qu'on jette son cadavre sur la tombe d'Élisée, Élisée étant déjà mort, le 14e miracle d'Élisée va s'accomplir en ce jour-là. Élisée, un homme puissant. Un homme qui marchait avec Dieu. Un homme qui avait une mission de faire revenir Israël, parce qu'Israël était éloigné de Dieu. Au moment où ce texte que nous venons de lire est écrit, Israël n'est plus la même nation qui était la grande nation d'Israël. Elle a été scindée en 2. Vous avez le royaume du nord, vous avez le royaume du sud. Vous avez la Samarie et vous avez Jérusalem. C'est devenu comme 2 pays, on va dire comme ça, mais alors qu'au départ, c'était une seule et une même nation à cause du schisme. Cette période est une période caractérisée par des hommes et des femmes qui ne veulent pas de Dieu. Les rois qui se succèdent sont éloignés de Dieu. Vous savez, des fois, quand vous lisez 2 chapitres, entre 3 chapitres de la Bible, peut se passer 2 siècles. 130 années se passent donc ainsi quand vous êtes en train de parcourir 2 rois. 130 années pendant lesquelles le peuple se perd, le peuple s'éloigne de Dieu. Le peuple fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et ils se souviennent de ce que Moïse leur avait dit dans Deutéronome 28, que si vous vous éloignez de ce Dieu, vous mangerez vos enfants. C'était écrit depuis la loi de Moïse. Moïse leur avait dit clairement, si vous observez, vous serez bénis. Mais si vous vous écartez, les choses les plus abjectes arriveraient sur votre chemin. Et malheureusement pour Israël, ils en sont rendus à ce point-là. Quel malheur! Ils n'ont plus rien à manger. Vous posez certainement la question, qu'est-ce qu'ils vont faire au marché en allant acheter de la fiente de pigeon, des excréments d'oiseaux, se vendre au marché? Les gens allaient donc au marché pour acheter cela? Imaginez à quel niveau se trouve la famine dans ce pays d'Israël. Les gens n'ont plus rien à manger. Ils sont assiégés et ils ne savent plus comment s'en sortir. Aujourd'hui donc, je vais prêcher sur Élisée et le siège de Samarie. Élisée et le siège de Samarie. Samarie, cette contrée, est assiégée. Il n'y a plus rien qui entre, il n'y a plus rien qui sort. Et dans cette misère qui n'a pas de nom, quelque chose d'extraordinaire va se passer. La Bible dit, et c'est le premier verset du chapitre 7, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ces hommes qui n'ont pas d'avenir, ces hommes qui, entre guillemets, n'ont plus d'espoir, ont un chemin qui leur est proposé. Écoutez la parole de l'Éternel. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un en ce matin. Les miracles de Dieu sont possibles. Dieu peut changer la vie de quelqu'un en 24 heures. Et c'est ça la thématique même de ce texte. Parce que Élisée est clair. Il dit clairement, demain à la même heure. C'est comme s'il appuyait top chrono 24 heures. Dans 24 heures, la situation du pays va changer. Dans 24 heures, c'est-à-dire on dort aujourd'hui, on se réveille demain, tout a changé. Mais vous imaginez, c'est carrément comme quelqu'un qui était en train de rêver. Ça n'a aucune base. Ça n'obéit à aucune théorie de l'économie, de la macroéconomie. Ça n'obéit à aucune théorie de la société, de l'utilisation des technologies. Ça n'obéit à rien. Mais ça obéit seulement à un principe. Écoutez la parole de l'Éternel. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma sœur, en ce matin. Si tu veux entrer dans la bénédiction de Dieu et si tu veux vivre comme Israël a vécu, a connu ce miracle, puissant miracle de Dieu. Bien-aimé, n'oublions pas le principe. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde dans les programmes des églises, la plupart d'églises, les gens aiment prier. Je ne suis pas contre la prière. Mais très peu de personnes passent du temps dans l'enseignement de la parole. Très peu d'églises enseignent les chrétiens. Et très peu de chrétiens aiment aller à des réunions d'enseignement. Très peu de chrétiens aiment se rendre à des endroits où on exploite la parole de Dieu. Mais on aime seulement prier. Je ne suis pas contre la prière, mais je dis que la prière, elle est la plus puissante là où elle devient la réponse et la réaction à la parole de Dieu. Sinon, vous priez en l'air. La prière réussit là où on a posé les fondements, et les fondements, c'est la parole de Dieu. Sinon, ça devient juste un théâtre. Sinon, ça devient une autosatisfaction. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de revenir à ces principes, d'écouter la parole de l'Éternel. La parole qui peut changer ta vie, c'est la parole de l'Éternel. Les hommes te diront des choses, l'oncle te dira des choses, ta belle famille te dira des choses, tes propres frères te diront des choses, mais ce n'est pas ça qui va changer ta vie. Écoutez la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel, j'aime dire, elle est le carburant du miracle dans notre vie. Elle est le carburant, l'énergie motrice qui va faire que notre vie puisse changer. Les hommes nous pousseront des fois dans des commentaires qui vont nous pousser à la désolation. Mais j'aime la parole de Dieu. Apocalypse 1, verset 3. J'aime beaucoup ce texte parlant de la parole de Dieu dans le cadre de la prophétie d'Apocalypse. Jean écrit ceci, il dit, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Heureux celui qui lit. Et je me suis toujours posé la question, pour les gens qui n'ont pas était à l'école, pour les gens qui ne savent pas lire, gloire à Dieu, la Bible dit, même s'ils ne savent pas lire, heureux ceux qui entendent. Peut-être qu'ils ont été à l'école, mais ils ont des problèmes d'yeux, ils ne savent plus voir. Gloire à Dieu, heureux ceux qui entendent la parole, et encore heureux ceux qui gardent la parole. Voilà pourquoi nous devons investir nos vies sur la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, que cette parole soit lue, que cette parole soit entendue. et que cette parole soit gardée par tous les moyens qu'il faut, si c'est pour encourager les médias, parce qu'il y a des gens qui seront sauvés parce que cette parole sera entendue. Quel est notre investissement pour que cette parole soit lue, soit entendue, soit gardée? À quel niveau, sur une échelle de 1 à 10, nous trouvons-nous? Qu'est-ce que nous faisons pour que cette parole soit lue, soit entendue, soit gardée? Vous savez, par moment, vous pouvez être béni tout simplement en écoutant la Bible. La Bible en audio. Au lieu de la lire, vous écoutez. Vous qui cherchez une solution pour votre grand-mère, peut-être qu'il n'a plus des yeux pour lire, je vous propose de lui trouver une Bible en audio. Elle ne sera pas moins bénie en écoutant la Bible. Parce que cette parole, elle est puissante. Elle a la capacité de changer les choses. Alléluia. C'est la parole de Dieu. La parole qui est la base du miracle. Donc ce n'est pas un miracle qui a été fabriqué comme ça de toutes pièces qui ne serait posé sur rien, non. Il est assis sur la parole de Dieu. Élisée commence par dire, écoutez la parole de Dieu. C'est pour ça, en ce temps où les hommes et les femmes cherchent des miracles de toutes sortes, il est important d'insister et de rappeler à l'Église, ne vous embarrassez pas à tout champ de miracles qui viennent à poindre à l'horizon. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons si les miracles en question sont basés sur la parole. Si ce n'est pas basé sur la parole, mettez à côté. Même si les morts ressuscitent, même si les membres repoussent, même si, je ne sais pas, le ciel devient rouge et la terre devient bleue, peu importe. Si la parole n'est pas là, si ce n'est pas centré sur la parole, ce n'est pas un miracle. Je pensais que vous diriez amen. Parce qu'il y a tellement de choses dans notre société aujourd'hui. Et vous allez voir des choses impossibles qui se font. Des choses qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu. Mais le peuple de Dieu a été séduit. Et dans cette séduction, on regarde souvent le résultat. Vous allez entendre les gens dire, mais tiens, il a été guéri. Sa santé est maintenant correcte. Mais vous ne savez pas à quel prix. Vous savez, le diable, c'est un grand marchand. Il peut vous enlever la maladie et mettre une malédiction. Et vous êtes content. Et vous passez même témoigner. Alors qu'on vient encore d'ajouter des chaînes dans votre vie. Mon frère, ma sœur, ouvre les yeux. Écoute la parole de l'Éternel. Ça vous m'aider à dire à votre voisin, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Il nous faut donc écouter la parole de l'Éternel pour entrer dans la bénédiction de Dieu. Comme en ce jour-là, Israël devait écouter la parole de Dieu. Mais vous remarquez que lorsque il est en train de parler ainsi, Élisée, les hommes écoutent, Israël écoute, mais il y a un homme en particulier, l'écuyer du roi, qui était une sorte de capitaine. La Bible dit littéralement l'homme sur lequel le roi s'appuyait. Ça peut signifier deux choses. Le roi s'appuyait physiquement sur lui. Ça peut signifier aussi que c'était une sorte d'assistant du roi. Il était quelqu'un qui aidait le roi à faire son service ou à faire son travail. Cet homme va avoir un comportement quand même assez étrange. Il va dire quelque chose de magnifique. Il va dire, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel. Donc, il ne s'en rendait pas compte. Il venait de déclarer lui-même qu'il y a des jours dans la vie de quelqu'un où Dieu va faire des fenêtres. Mais seulement lui-même s'excluait. À telle enseigne qu'il dit, même si Dieu faisait des fenêtres, est-ce qu'une chose pareille pourrait arriver? L'incrédulité. L'incrédulité, c'est quelque chose d'horrible. Cet homme, ce n'est pas qu'il ne croit pas en Dieu. Non, il parle de Dieu. Il dit l'Éternel. Il parle de l'Éternel. Il sait qu'il existe. Ce n'est pas qu'il dit Dieu n'existe pas. Non, il dit Dieu existe. Même si Dieu a envie de faire ça, sur quelle base, hein, Élisée, toi aussi quand même, tu n'as pas regardé que dans la vie, tout obéit au principe de la théorie, de l'économie politique? Non. L'histoire d'un peuple ne peut pas changer en 24 heures. Élisée, as-tu consulté des grandes théories de l'économie moderne? Parce que si on va réfléchir sur la manière dont le circuit de l'argent, il est dans beaucoup de théories. Il a fait des grandes études. Gloire à Dieu pour les grandes études, mon frère, ma sœur, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si Dieu veut changer votre vie en 24 heures, il en a la capacité. Vous pouvez dormir en babouche et vous réveiller en chaussures. Vous pouvez dormir locataire et vous vous réveillez propriétaire. Vous pouvez dormir chômeur et vous vous réveillez travailleur. Dieu a la capacité de changer la vie d'un homme en 24 heures. 24 heures, c'est suffisant. Déjà, en une seconde, il peut le faire. Amen. Mais cet homme est incrédule parce que il n'arrive pas à appréhender que cela soit possible parce qu'il est tellement verrouillé par le système des pensées. Il réfléchit, il regarde. Parce que Élisée quand même est allé loin. Élisée est en train de donner un prix sous lequel on vend les articles. On appelle ça en technique de vente des prix de liquidation de stock. C'est comme si on disait le bus Transco, on le payera à 50 francs congolais. Vous-même vous dites, bon, même si Dieu pouvait faire, mais les bus à 50 francs, le carburant, 1 litre à 300 francs. Même, c'est au fait dans ça qu'il est. Il s'est dit, je crois que Dieu peut faire, mais Dieu peut faire quand même qu'on achète. Qu'il n'y ait plus la rupture des stocks. Oui, Dieu peut faire que ça revienne dans la ville. Mais, et que ça revienne, et que ça soit comme si on liquidait un stock. Ah! L'incrédulité. Vous savez, il y a des jours dans votre vie où Dieu vous bénit comme si on liquidait les stocks. Où Dieu vous bénit comme ça, comme si on devait liquider, comme s'il y avait des choses qu'on gardait. On dit, bon, il faut que ça parte d'ici. Ces mariages sont restés longtemps ici. Distribuer. Que les gens qui ne qui prennent les enfants. Il y a des gens qui chassent les enfants là-bas. Donnez. Maintenant, le problème de cet homme, c'est qu'il est esclave d'un système de pensée. Il réfléchit beaucoup, au point qu'il soit devenu incrédule. Je ne suis pas contre la réflexion, ni les études, ni le fait qu'il soit haut placé. Mais le grand problème de cet homme, c'est pas seulement les études, c'est son cœur. Et j'ai beaucoup aimé au début de cette année, vous savez, le pasteur a commencé par nous prêcher sur le cœur. Si vous avez bien observé, cette année nous avons commencé en nous prêchant que sur le cœur. Parce que c'est vrai qu'on aura beaucoup de miracles, on aura du 20 sur 20, mais tout va commencer là. Le secret de la bénédiction, c'est notre cœur. Amen. Et tout commence là. Cet homme, dans son cœur, il ne croit pas en Dieu. Et quand vous lisez bien les chapitres précédents, vous allez vous rendre compte qu'ils en voulaient à Élisée. Et lui et son maître, ils étaient contre Élisée. Ils estimaient que c'est à cause d'Élisée que le pays souffrait, parce qu'il avait prophétisé. Mais où est le problème d'Élisée? Il n'a fait que dire la parole de Dieu. Mais ils étaient contre Élisée, et donc ils étaient en même moment contre Dieu. Et cet homme, au fond de son cœur, il se disait, ce monsieur risque d'avoir un tel succès. Si ça se passait, ouf! Alors ce jour-là, le jour où le miracle va s'opérer, vous savez comment Dieu fait les choses, il va se retrouver à la porte. Il est écrit que c'est le roi qui le lui demande. Mais je crois personnellement, ce n'est pas écrit, mais je crois personnellement que ce monsieur avait des raisons douteuses de se trouver là. Soit il voulait vérifier si c'était vraiment vrai. Je vais en venir aux quatre lépreux. J'ai prévu de terminer par ça. Il se disait, est-ce que vraiment c'est possible que cette nouvelle qui nous arrive, que la bénédiction est arrivée? Non. Je vais un peu voir à la porte. Mais il se peut aussi qu'il soit là pour empêcher à ceux qui étaient en train d'aller de s'y rendre. Parce qu'il voulait se servir en premier. Il se peut aussi tout simplement qu'il se soit retrouvé là, en train d'obéir à l'ordre de son roi. Mais peu importe les raisons pour lesquelles il s'y trouvait, la parole de Dieu va s'accomplir sur lui. Tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Le problème de l'incrédulité, c'est ça. Tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Tu assisteras à la bénédiction des autres, mais toi-même, la tienne, tu ne l'auras jamais. Le problème de l'incrédulité, c'est ça. Tu viendras recevoir les bénédictions, mais tu n'en trouveras pas pour toi. Mais tu vas seulement regarder de tes yeux comment Dieu est en train de bénir, parce que dans ton cœur, tu ne crois pas. L'incrédule, l'homme au cœur qui n'est pas droit devant Dieu, l'homme au cœur qui ne croit pas en Dieu. Non seulement il n'a pas voulu croire en la parole de Dieu, mais il a voulu la dénigrer. Au point qu'ils disent, ah, même si Dieu faisait des fenêtres au ciel. On m'a raconté une fois l'histoire d'un homme qui était professeur d'université et athée. Il animait des conférences internationales pour prouver à tout le monde que Dieu n'existait pas. Il allait d'université en université, de pays à pays. Il prenait des airs vraiment de grands savants et puis il expliquait toutes ses théories pendant lesquelles il montrait et démontrait scientifiquement que Dieu n'existait pas selon A plus B égale C. Et pour mettre la série sur le gâteau, il terminait toujours chacune de ses séances en disant ceci. Maintenant, si Dieu existe, eh bien je lui donne 3 secondes pour me tuer. Comptez avec moi. 1, 2, 3. Ah, vous voyez, il n'existe pas. Un jour, il va animer son séminaire dans une université. Il va parler comme il parlait d'habitude et puis il arrive à son rituel où il devait donner quelques secondes à Dieu. Juste avant qu'il puisse le faire, il y avait un jeune chrétien dans la salle qui est monté sur l'estrade avec un pistolet. Il a pris le pistolet et tout le monde dans la salle s'écrie « Ah !» Alors, il a regardé le professeur d'université. Il lui a dit « Je vous donne 3 secondes, sinon je vous tue. » Le monsieur est resté calme. Il ne savait pas bouger. C'était « Ce monsieur me donne 3 secondes. » Et le monsieur, le jeune homme, compte 3 secondes et il dépose le pistolet. Et lui dit, voilà, j'ai donné 3 secondes à ce monsieur et vous voyez, je ne l'ai pas tué. Soit moi, je n'existe pas, soit c'est lui qui n'existe pas. Alors, tout le monde est resté calme. S'est demandé, qu'est-ce que ce jeune homme veut dire? Le jeune homme se retourne et dit, vous voyez, ce monsieur pense toujours c'est parce que Dieu ne le tue pas, que Dieu n'existe pas. Oh, c'est faux. Moi, j'existe, mais je ne l'ai pas tué parce que je lui ai laissé le temps. Je lui ai laissé le temps. Je lui ai seulement laissé le temps. Et c'est ce qui se passe dans la vie de ces genres de personnes. Incrédules. Tellement contents de ce qu'ils ont accompli dans leur vie. Quand ils parcourent son CV, au départ qui n'avait que quelques maigres pages, maintenant il a un CV à 20 pages. Vous savez, il y a des gens qui ont des CV de 40 pages, 50 pages. Et vous-même, quand vous vous retournez sur votre livre, vous dites, « Oh Dieu, quelle belle vie !» Gloire à Dieu, vous avez préparé beaucoup de choses pour cette terre, mais avez-vous pensé aussi à la vie qui vient après ? Êtes-vous aussi prêt pour l'au-delà? Serez-vous accueilli avec vos diplômes? Les diplômes, c'est bien, j'insiste, c'est très bien. Mais il ne suffit pas d'avoir des diplômes dans la vie. Il faut connaître Dieu. C'est le meilleur des titres que l'on puisse remporter ici sur la terre. Enfant de Dieu, comme on l'a chanté tout à l'heure. Si nous pouvons avoir des diplômes et avoir Dieu, nous sommes les meilleurs des hommes sur la terre. Si nous pouvons avoir des grands diplômes et avoir le grand Dieu aussi dans notre cœur, nous sommes les hommes les plus heureux. Je nous encourage au nom de Jésus à avoir les meilleurs des diplômes, à nous positionner dans les meilleurs des endroits, dans les meilleures entreprises. Mais surtout, n'oublions pas, avoir Dieu dans notre cœur et briser l'incrédulité. J'aimerais parler enfin des 4 lépreux, qui sont pour moi un synonyme de courage. Ce sont des hommes courageux, très courageux. Dans Lévitique, au chapitre 13, les versets 45 et 46, vous pourrez lire à la maison, je vais juste lire un extrait, la Bible dit au verset 46, « Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. » C'était ça le sort des personnes qui étaient atteintes de lèpre. Quand vous souffrez de la lèpre en Israël, vous ne devez pas rester dans le pays. Donc, essayez de contextualiser. La ville est clôturée, comme c'était les villes de l'époque, et la ville a une porte. Et les gens qui ont la lèpre, on les met dehors. Ils n'habitent pas la cité. Parce qu'on a peur qu'il y ait contagion. Ils risquent de contaminer la population. Alors, ils doivent rester là, en quarantaine. Donc, ces personnes se trouvent en dehors de la ville. Ils n'ont donc aucun espoir. Ceux qui sont à l'intérieur ne mangent pas. Vous savez, si vous êtes nourri par des déchets, il faut qu'on en produise. Déjà, on produisait plus les déchets. Donc, ils souffraient deux fois plus que les autres. Ils n'avaient rien à manger littéralement tous ces jours-là. La famine frappait. Ils n'avaient pas d'argent. La lèpre est une maladie qui fait disparaître les membres. Ça consomme le corps humain, la chair humaine. Ces hommes sans espoir qui habitaient là, jour après jour. La Bible dit, si vous avez lu avec moi au verset 3 et 4, ils se sont décidés, ils ont dit, nous, comme nous sommes là, si nous entrons dans la ville, notre ville d'origine, Israël, on va mourir. Bon, si on va aussi chez les Syriens, on va mourir. Dans tous les deux cas, nous allons mourir parce que nous sommes déjà morts, parce que nous avons la lèpre. Alors, est-ce que quelqu'un qui est mort a peur encore de la mort? Alors, il se décide, comme nous, on est déjà morts, on va partir chez les Syriens. On va seulement se présenter. Et s'ils nous tuent, il n'y aura rien de nouveau. De toutes les façons, notre maladie va vraisemblablement nous tuer. Ils attendent donc le soir, il n'y ait plus la lumière du jour, et ils vont à petits pas. Ils marchent, je ne sais comment, je ne sais pas s'ils avaient encore tous leurs membres, je ne sais pas s'ils s'étiraient les uns les autres. J'aime beaucoup l'image que la Bible donne ici de ces quatre personnes. C'est des personnes par lesquelles le miracle se passe, mais c'est des personnes, on va dire, sous lesquelles personne ne peut miser. Des outsiders, comme on dit. Des gens, personne ne peut miser sur eux. Ils n'ont pas le profil. Ils ne ressemblent pas au poste. Mais quatre personnes mendiantes arrivent dans la ville de la Syrie, et il remarque que le pays est calme. On n'entend aucun bruit. Ils se disent, comme il n'y a pas de bruit ici, c'est dangereux. Peut-être qu'ils se cachent à un endroit. Ils entrent dans une première maison, ils trouvent de la nourriture, ils mangent. Comprenez, ne les jugez pas trop fort, ils étaient affamés pendant des jours. Vous savez, les besoins de la nourriture, c'est un des besoins primaires. Et c'est la première chose qu'ils font. Ils ne prennent pas d'abord l'or, ils mangent. Quand ils ont fini de manger, ils ont commencé à regarder aux choses qui étaient là. Ils vont cacher. Ils vont dans une autre maison, ils vont cacher. Et au bout d'un moment, ils se disent eux-mêmes, non. Ce que nous sommes en train de faire n'est pas quelque chose de correct. Alléluia. Mais comment est-ce que la ville de la Syrie, ou du moins le pays de la Syrie se retrouve dépeuplé? J'aime bien ce verset-là. La Bible dit, au verset 6, « En effet, le Seigneur y avait fait entendre un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée. » Donc, Dieu, moi je l'appelle souvent le grand metteur en scène. Donc, Dieu, non, Dieu me dépasse. Dieu fait que dans le vide, les gens entendent Youhou! Ils entendent même des cris de gars, attrapez-le! Mais il n'y a personne. Ils entendent même des armes lourdes, des explosions d'obus. Ils entendent des bruits. Les bruits sont tellement forts qu'ils sont convaincus qu'il y a alliance entre trois nations. Ils se disent, c'est trois nations. Et si vous étudiez, ces trois nations, c'est Israël, et il y en a qui viendront du nord, il y en a qui viendraient du sud. Donc ils se disent, ils vont nous prendre en sandwich. Ah! Et ils se disent les uns et les autres, il faut que nous puissions fuir. Mais vous fuyez quoi? Ah Dieu. Dieu, il est capable de faire des choses inimaginables. Inimaginables. Ce matin, j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez. Est-ce que vous pouvez croire en ce Dieu? Est-ce que vous pouvez croire vraiment en ce Dieu? Est-ce que vous pouvez croire en ce qu'il peut faire pour vous? Il a plus de moyens que vous n'en disposez. Et il a plus de moyens que vous n'y pensez. Dieu a des stratégies inimaginables. Donc, Israël remporte une bataille sans livrer de combat. L'ennemi lui-même, convaincu qu'on le pourchasse, fuit. Il fuit à telle enceinte qu'il y en a qui laissent même la nourriture au feu. Donc, ils n'ont même pas pu partir avec les chevaux. Vous savez, il y a ces gens de débandade là, vous courez seulement là où vous vous trouvez. Là où ça vous prend. Là où ça vous prend. Je me souviens dans les années 97, alors que la guerre de l'Est a commencé, on a un frère avec qui on évoluait ici à Kinshasa, et puis il se retrouvait dans ce coin-là. Il était à l'école, il était encore très jeune. Et puis quand les mouvements de guerre ont commencé, il a fui à partir de l'école. Mais malheureusement pour lui, sa famille se retrouvait loin de lui. Pendant plusieurs mois, nous avions cru que le frère était mort. Et un beau jour, on nous dit qu'il était vivant, il était à Kinshasa. Les bruits de la guerre, quand ça vient, et surtout quand ça vient de cette façon, vous ne savez jamais. Ceux qui étaient vers l'Imété, peut-être vont se retrouver à l'Équateur. Ceux qui se trouvaient à Delvaux vont descendre à Sangamamba, peut-être vont se trouver au Bas-Congo. Ah, c'est le jour-là que vous allez découvrir qu'il y a un raccourci derrière ici pour arriver au Bas-Congo. La route là que vous n'avez jamais empruntée. C'était un jour inimaginable pour les Syriens. Seigneur mon Dieu, je prie que tu combattes pour nous avec tes armes. Je prie que tu combattes pour nous avec tes stratégies. Je prie que tu combattes pour nous avec ta façon, avec ta procédure. Que tu combattes pour quelqu'un et que tu fasses gagner quelqu'un au nom de Jésus. C'est pourquoi il est important d'écouter la parole de Dieu. Lorsque le prophète Élisée est en train de prophétiser, il ne donne pas des détails. Et c'est ça le problème avec l'église d'aujourd'hui. Beaucoup de gens ne comprennent pas le rôle du ministère prophétique et croient que les prophètes sont là pour donner les détails. Et maintenant, à 15 heures, je fais quoi? À 16 heures, je fais quoi? À 17 ans, j'aurai quoi? À 28 ans, je fais quoi? Non, mon frère, si vous faites dépendre votre vie d'un prophète, vous êtes loin de la volonté de Dieu. Faites dépendre votre vie de la parole et seulement de la parole de Dieu. Élisée ne s'est pas mis à donner tous les détails. Élisée, en tant qu'un prophète, donne un message qui contient la finalité. Il ne cherche pas à entrer dans les détails. La fin de cette histoire, c'est que demain, à 7 heures, vous allez manger. Mais cette parole, comme elle était la parole de Dieu, elle avait elle-même la capacité de créer l'environnement. Je vais le répéter. Elle avait la capacité de créer l'environnement. Déplacer les acteurs, déplacer les personnes, déplacer les circonstances comme des pièces d'un puzzle. Il allait les classer correctement. La parole suffisait. La parole de Dieu suffisait. Et le miracle va avoir lieu ce jour-là en Israël. Il y a surabondance. Les gens qui étaient affamés il y a quelques heures vont se retrouver rassasiés. Non seulement rassasiés des mets, mais des mets qu'ils n'ont pas préparés. Triste sort pour cet homme incrédule dont nous avons parlé. Je me demande des fois quand je lis la Bible, c'est mon commentaire personnel, si ses propres enfants ne l'avaient peut-être même pas piétiné. Parce que dans cette effervescence, tout le monde courait dans tous les sens. Et vous savez, quand vous tombez, alors qu'il y a une foule qui court, c'est peut-être après 10 minutes qu'on se rend compte qu'on piétine quelqu'un. Et c'était trop tard. Tué à cause de son incrédulité. Il n'a pas voulu croire. Il s'était juste mis à la porte. De la porte, il a vu l'abondance. De la porte, il a vu les trésors. De la porte, il a vu des gens en train de se réjouir avec des morceaux de viande, avec des casseroles. Mais il n'a pas mangé un seul morceau parce qu'il était incrédule. Amen. Les 4 lépreux, je disais, sont les symboles de personnes courageuses. Il ne suffit donc pas d'avoir la parole prophétique ou la parole de Dieu pour dire que sa vie va changer. Il faut aussi mettre le courage en action. Amen. N'allez pas dire, voilà, Dieu m'a dit que je serai béni et puis je croise les bras. Non. C'est vrai que vous avez la parole de Dieu, mais après, il y a des gens courageux. Des personnes qui sont capables de dire, ok, nous allons partir. Nous allons entrer dans ce pays-là. Le courage, peut-être c'est ce qui manque à la plupart. Ça manque à plusieurs. Le courage de se lever, d'affronter son avenir. Le courage de se décider, de dire, j'arrête avec ceci. Le courage de dire, moi aussi, je me considère comme étant déjà mort à moi-même. Parce que c'est aussi l'image que les quatre lépreux dégagent. Des gens qui étaient déjà passés par la mort. Ceci nous prêche combien c'est important, si on veut voir et vivre le miracle de Dieu, de mourir à soi-même. La mort à soi-même est très importante. La mort à soi-même est une des étapes inéluctables, inévitables, si nous voulons vivre la bénédiction de Dieu. Je disais, un miracle arrive, le jour de bonne nouvelle arrive, mais entre ce jour et maintenant, Dieu cherche un homme qui peut croire, une femme qui peut croire, mais Dieu cherche aussi un homme qui peut se lever, une femme qui peut se lever avec foi. Dieu cherche quelqu'un qui peut croire en sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et nous allons prier? J'aimerais que nous puissions prier ce matin en quelques directions. Priez pour notre foi. Priez pour notre cœur. Priez pour refuser l'incrédulité. Priez aussi pour que la parole de Dieu habite abondamment en nous, comme dit la parole elle-même. Que la parole de Dieu habite en nous en abondance. Que nous soyons remplis des paroles de Dieu lorsque l'ennemi viendrait à nous, que nous puissions savoir quelles paroles utiliser pour lui résister. Lorsque les questions de la vie se souleveraient à notre esprit, que nous puissions avoir une parole. Élevons nos voix ensemble. J'aimerais que chacun de nous prie. Je vous encourage à prier. À prier pour vous-même. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez ce matin. Peut-être vous êtes devenu incrédule. Une sorte d'incrédulité masquée, maquillée. Vous croyez en Dieu, mais vous ne croyez pas qu'il peut vraiment changer ceci ou cela. Vous croyez en Dieu, mais vous estimez qu'il peut accomplir que 1 ou 2 sur 10. Vous croyez en Dieu, mais vous n'êtes pas mort à vous-même. Votre vie n'est pas encore passée réellement par la croix. Dieu, c'est une adhésion intellectuelle pour vous. Dieu, c'est juste des pensées de la religion qui vous a été communiquée depuis votre enfance. Mais au fond de vous, vous savez, vous croyez pas Dieu, vous croyez pas Dieu. Ce matin, j'aimerais que vous puissiez lui parler, parler à ce Dieu, celui-là même, Jésus-Christ, qui est mort en dehors du camp. Il est mort à Golgotha, qui se trouvait en dehors de la ville. Celui-là même qui a donné sa vie un jour à la croix, pour que nous soyons sauvés, pour que nos vies ne soient plus les mêmes. J'aimerais que tu puisses tourner ton cœur vers lui. Oh, oh, oh. Oh, 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 je prie que Dieu restaure notre foi et que l'incrédulité soit chassée des vies. peut la traverser. Dans ton amour, tu m'as secouru alors que peu importe, je suis enfant
de Dieu.
Chantons-le, tu fends la mer. Je peux la traverser.
Mes peurs se noient dans ton amour.
Mes peurs se noient dans ton amour.
Tu me secours afin que je puisse dire.
Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Chante-le fort ce soir. Je suis enfant de Dieu.
Je suis enfant de Dieu.
Né de l'esprit de vie, je suis enfant de Dieu.
Enfant de Dieu.
Je suis enfant de Dieu, j'ai la parole de Dieu. Je suis enfant de Dieu. J'ai les armes de Dieu, je dispose des armes de Dieu.
Je suis enfant de Dieu.
Je m'appuie sur les stratégies de Dieu. Je suis enfant de Dieu.
Enfant de Dieu.
I am a child of God. Zindarabaso babrandarabazete mashamana babrade. Zikatamana mabrosete dedeva. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Que la foi revienne ce matin dans ton cœur. Que la confiance en Dieu revienne en ce matin dans le cœur de quelqu'un. Que l'assurance que Dieu peut changer ta vie revienne dans ton cœur. Même si ça fait des années, même si vous n'arrivez pas à vous séparer de ce vice, de ce mal, de ce péché. Même si cette situation a trop duré, ce matin, croyons Dieu, croyons-le. Je demande à Papa Batoubenga de venir prier pour nous tous en tant qu'Église, de briser l'incrédulité. De briser le pouvoir de l'incrédulité et que la foi vienne.
Quand toi tu parles, l'Éternel des armées, tu édifies. Ô Dieu Tout-Puissant, cette parole que tu as libérée ce matin, qu'elle renouvelle en chacun de nous un esprit bien disposé pour que l'Éternel des armées, l'incrédulité ne puisse être le partage de personne. Et surtout, Éternel des armées, que nous puissions mourir à nous-mêmes pour que, Dieu Tout-Puissant, tu opères des miracles dans nos vies, dans les différents aspects de nos vies. Que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.